Salut les amis.
Salut Charline.
Alors on reçoit Claude Brasseur.
Oh, génial. On va lui parler des Césars.
Ah, oui. Carrément, il était là pour le César d'honneur.
Et c'était très mérité parce qu'il reçoit le César d'honneur pour l'ensemble de son œuvre.
Non, il était là pour le César d'honneur remis à Belmondo.
Ah bon?
Ouais, mais il le mériterait lui aussi.
M'étonnes. Bah tu sais quoi, quand moi je présenterai les Césars, je vais lui remettre.
Ah parce que tu vas présenter les Césars.
Bah ouais, ça semble normal, j'ai toutes les qualités pour.
Bah
les mêmes qualités que Jérôme Commandeur, que Gad Elmaleh, que Florence Foresti. Bah ouais, je suis élégant, je suis drôle et je joue pas beaucoup au cinéma. Donc a priori dans 2 ans c'est moi, je vais faire un carton. Déjà je vais remettre un César d'honneur à une personnalité de Hollywood engagée mais pas assez talentueuse que pour recevoir un Oscar d'honneur.
Ah bah ouais là c'était George Clooney là.
George Clooney, et bah moi ce sera Pamela Anderson.
Mais elle est pas du tout engagée.
Tu rigoles, comment elle se bat contre le foie gras? Et je remettrai un César d'honneur à une légende du cinéma français.
Claude Brasseur.
Ah oui, ça va être émouvant.
Oui, on s'y voit déjà.
Oh, moi aussi.
Ah bon.
Mesdames, messieurs du cinéma, il était normal que ce soit un Belge qui rende hommage à Claude Brasseur.
Mais pourquoi il dit ça?
Bière Brasseur, je crois.
Oh là.
Et parce qu'il a joué dans Les Rois du Gag.
Ouais, et là, pourquoi?
Bah, les Belges, on aime les rois, je sais
et
pas.
Et les gags.
Et il a joué aussi dans La Boum, un des films préférés des habitants de Molenbeek.
Ah, bah là, j'ai compris, parce que Boum.
Ah oui, aussi... ça suffit.
Mais quoi, j'étais lancé à fond, là, comme Jackie
X. Oui, bah, tu sais quoi, moi, je pense qu'il préférera attendre pour son hommage, Brasseur. Si, si.
Oh, bah, le salaud. Bah, tu sais quoi, je m'en fiche. Je donnerai à Guy Bedos le César d'honneur.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui résiste à l'actualité. Et voici les 3 informations qui vont prendre le maquis jusqu'à 18h. Parmi les principaux candidats à la présidentielle, il y en a un qui fait une percée fulgurante, c'est la justice. Fillon et Le Pen conservent de très bons sondages, donc leurs électeurs ne semblent même pas avoir honte.
Ça va, on va pas faire un flan pour 2-3 piécettes.
Le génie du capitalisme, c'est de nous faire désirer des choses dont on n'a pas besoin. Alors aujourd'hui, est-on encore capable de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu?
Enfin, il n'y a jamais personne dans ces boutiques de luxe. Ouh, quelqu'un pour s'occuper de moi éventuellement? Faut que je vais dépenser un PEL dans un pantalon.
L'Oscar du meilleur sketch est attribué à Warren Beatty aux côtés de Faye Dunaway. Une affiche à la taille de la boulette annonçait un film pour un autre. Le vainqueur des Oscars est finalement bien Moonlight.
Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir?
Non.
Vous n'êtes pas raciste?
Mais non.
Moi non plus. Quelle horreur.
Et moi je suis accompagnée de celui qui est donc disponible pour animer les baptêmes, les mariages et les Césars. C'est Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Et autour de la table, une belle équipe pour notre invitée, 17h20. Elle est chroniqueuse et DJ, un métier qui consiste à passer des disques tout en buvant des coups en soirée. Bref, elle fait de ses vices un métier. Chapeau, Mélanie Bauer, bonjour.
Waouh, j'adore.
Mais oui, de quoi on parle?
Alors vous l'avez sûrement aimé, Alex Vizorek, dans le film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive.
Bien sûr que les amours restent en vie.
C'était en 2014. Je vous présente aujourd'hui la chanteuse et comédienne Yasmine Hamdan.
Très bien, 17h30, celui qui s'invite dans tous les endroits où on n'aimerait vraiment pas qu'il ne vienne. Sorte de morpion médiatique. Ah, bonjour oui. Guillaume Meurice.
Ça me touche beaucoup. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai réfléchi au programme scolaire avec les membres éminents de l'Académie des sciences morales et politiques. Comment on arrive à faire partie de cette académie alors?
Je n'en sais rien.
Vous-même, comment vous avez fait?
On m'a demandé.
Voilà, des gens tout à fait concernés par le sujet.
Et enfin, 17h40, celui qui, en cas d'erreur, est susceptible de gagner l'Oscar du meilleur acteur l'an prochain, c'est Hippolyte Girardot, bonjour.
Ça va? De quoi on parle?
Il y a un mix un peu spécial avec les Oscars et un type qui s'est enfermé dans un rocher.
Très bien. Ah oui, je connais.
Et voici celui qui a tout annulé pour présider cette émission. Oui, c'est vous. Vous entrez au conservatoire dans la même classe que Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. Après un accident de bobsleigh pendant la préparation des Jeux Olympiques...
Vous mélangez tout, là.
Oui.
J'ai pas tout fait en même temps.
Votre vie est un mix. C'est juste après cet incident de bobsleigh que vous tournez pour Jean-Luc Godard, Michel Deville, Costa Gavras ou François Truffaut. En 76, vous tournez dans Un éléphant, ça trompe énormément, de Yves Robert. En 80, vous êtes le père de Vic dans La Boum, de Claude Pinoteau. En 92, vous êtes l'invité du souper d'Edouard Molinaro. Vous êtes également l'un des piliers des campings 1, 2 et 3. Parallèlement à tout cela, vous n'avez jamais quitté les planches, votre premier amour, le théâtre. Et c'est pour une pièce que vous venez nous voir aujourd'hui. Je vous laisse nous annoncer de votre voix profonde qui vous êtes. Vous êtes...
Oui. Bonjour.
Qui êtes-vous?
Je m'appelle Brasseur.
Oh, C'est lequel, ça c'est lequel un indice, attention.
Il y en a eu beaucoup.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
La dynastie Brasseur est avec nous.
Ouais, ça fait longtemps qu'on encombre. Hein. Depuis 1820, vous vous rendez compte.
C'est vrai, vous êtes la plus ancienne lignée de comédiens, d'artisans du monde.
Exactement. Oui.
Mais les Belges, ils aiment bien les Brasseurs.
Voilà. On doit avoir un petit truc belge. Moi,
je pense.
Oui, oui, moi je pense. Oui.
Il y en a encore après, Alexandre, votre fils.
Oui.
Il y a encore des Brasseurs qui suivent.
Il y en a des Brasseurs qui suivent, mais je ne pense pas qu'ils resteront dans le métier.
Oui, c'est ce qu'on aime.
Ils en vont.
Ils ont carrément moins de talent.
Claude Brasseur, vous êtes de nouveau sur scène à partir du 1er mars dans une lecture de L'Indigent philosophe, un texte de Marivaux, oui, mais un texte inédit. Alors, Claude Brasseur, comment est-il possible qu'un texte de Marivaux soit inédit aujourd'hui au théâtre et comment est-ce qu'il vous est arrivé dans les mains ce texte ?
Je vous raconte, quand je joue une pièce d'un auteur passé, un Molière, un Marivaux, un Beaumarchais quelconque, je me plonge dans leur biographie parce que je pense qu'il est indispensable de savoir dans quel contexte politique, social et dans tous les dans lequel vivait l'auteur. Et c'est très important de savoir s'il était heureux, malheureux, riche, fauché, homosexuel ou
alcoolique.
Oui, il y en a beaucoup. Bref. Et je joue donc sous la direction de Marcel Buval deux grands Marivaux, la double inconstance, le jeu de l'amour. Et je me plonge dans Marivaux et la première surprise est de voir que sur ses papiers d'identité, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, il ne se qualifie pas en tant qu'auteur dramatique, il met profession journaliste. Alors, comme je suis un peu con, je me suis dit, si les journalistes, ils travaillaient, non pas à France Inter, mais ils travaillaient dans un journal, je cherche le journal, je le trouve, ce journal s'appelle Le Spectateur, c'était un journal qui paraissait dans les années 1720, et je trouve un article signé du comte Marivaux. Je lis cet article, et je me suis dit, c'est pas possible, il est présent, il est là. J'ai l'impression que c'était un article qui concernait la politique et la situation française.
Il appelait à voter Macron ?
Non.
Ah bon. Non. C'est la mode en ce moment.
Non.
Donc c'est une chronique.
Non, il ne connaissait pas Macron, mais il est comme tout le monde, personne ne le connaît.
Oui, c'est vrai. Oui, il dit d'ailleurs, il fait sombre au pays des Lumières.
C'est exact.
Et c'est amusant, c'est une phrase qu'on voit inscrite sur nos murs aujourd'hui et qui est beaucoup relayée. Il fait sombre au pays des Lumières. Oui. Ça veut dire à quel point le contexte de Marivaux à l'époque résonne avec aujourd'hui.
Alors. Ah oui, il parle de tout. Il parle du délit de faciès, il parle des politiciens, il parle de la corruption, enfin, il parle de tout ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
Et L'Indigent philosophe, c'est un clochard, en réalité, c'est ça ?
Non, c'est lui.
C'est lui ?
C'est lui, mais Marivaux, parce que Marivaux a été un auteur à succès, et il était donc assez fortuné. Et effectivement,
mais qui a tout perdu.
Et,
c'est ça,
et à la fin de sa vie, il avait tout paumé. Je ne sais pas s'il était joueur ou. Je crois qu'il aimait bien siroter un coup de rouge quand même. Il en parle beaucoup dans cette lecture. Mais c'est très encourageant.
C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses, qui a été riche et qui a fini par tout perdre, mais avec une certaine joie et qui a été assez dispendieux.
Ce qui est formidable, c'est qu'il a écrit ça en 1727. Et c'est quand même 62 ans avant les révolutions et il en parle déjà. Et je crois que les deux auteurs dramatiques parmi les plus importants par rapport à la France, par rapport au social français, c'est que ces deux auteurs importants qui amènent déjà la révolution révolution des gens opprimés, incarnés par les deux Arlequins, par tous ces personnages-là, c'est vraiment extraordinaire.
Eh bien, Claude Brasseur en révolutionnaire, c'est dans L'Indigent philosophe de Marivaux, c'est au Théâtre de l'Atelier, à partir du 1er mars et jusqu'au 1er avril, du mercredi au vendredi à 19h, et puis il y a des matinées, le samedi à 16h, le dimanche à 18h, dans une mise en scène de Christophe Lidon. Il y a une violoncelliste en alternance, c'est Anne Kos ou Léa Duret, avec une musique originale de Cyril Giroux. Claude Brasseur est avec nous et L'Indigent philosophe, on va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'il résonne tellement avec notre actualité aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup.
want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love.
James sur France Inter pour accueillir Claude Brasseur qui est avec nous et que vous pouvez voir à partir du 1er mars au Théâtre de l'Atelier dans L'Indigent Philosophe, un texte inédit de Marivaux. Et pour entourer Claude Brasseur, Alex.
Eh bien, je vois Guillaume Meurice,
oui, c'est moi.
Je vois Hippolyte Girardot, oui, et je vois Mélanie Bauer, par ordre de champ de vision et non pas de préférence, bien évidemment.
Il y a une tradition dans cette émission, c'est qu'on revient sur l'information. Hein.
Pendant 30 ans de ma vie.
Il va pas pouvoir continuer comme ça.
J'ai fait la tournée de tous les bistrots.
Le journal de presque 17h17.
Ça devient gênant.
Et on commence par les titres.
Lors de son meeting dimanche à Nantes, Marine Le Pen a promis de rétablir l'état de droit.
Oui, elle parlait du fameux droit de ne pas se présenter à une convocation de la police.
Hier encore, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, était l'invitée du carnaval de Dunkerque. Et comme le veut la tradition, elle a lancé des harangues sur la foule.
Oui, elle s'est déguisée en quoi?
On vous le dira, on vous le dira. Et ça nous change de DSK qui lui venait dans le Nord plutôt pour ses macros.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Non, il n'y aura pas de brèves. Ah, attendez, c'est une erreur, c'est comme les Oscars. Il y aura des brèves.
Ah,
bien sûr, bien sûr.
Durant son meeting à Nantes, oui. Marine Le Pen a en quelque sorte menacé les fonctionnaires de purge politique si elle est élue en mai.
Voilà, dans ce cas-là, on va devoir fermer France Inter. C'est prévu.
D'ailleurs, ce matin sur France Info, le syndicat de la magistrature a dénoncé des menaces à peine voilées de Marine Le Pen contre l'institution judiciaire.
Voilà, chez Marine Le Pen, il n'y a que les menaces que le droit d'être voilé.
D'un justiciable à l'autre, François Fillon a accusé le gouvernement de laisser se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile qui perturbe la campagne électorale.
Oui, en Syrie, des habitants ont décidé de défiler dans les rues pour que l'OTAN intervienne en France.
Et ce lundi matin, François Fillon était en visite à Meaux, la ville de Jean-François Copé.
Pour relancer une campagne, aller voir un mec comme Copé, hein, qui jouit d'une belle image et d'une belle influence, c'est une bonne idée.
Et il y avait même un comité d'accueil.
Jusqu'au bout avec Fillon. Jusqu'au bout avec Fillon. Jusqu'au bout avec Fillon.
Voilà. Elles étaient quatre.
Elles étaient quatre et demi. Enfin, ça te rebooste une campagne, hein, c'est un truc pareil.
côté. Ségolène Royal était donc au Carnaval de Dunkerque.
Oui, elle était sur le balcon avec Patrick Kanner, ministre des Sports, et elle portait un grand chapeau type mousquetaire, comme ça. Ah. Et la foule en bas l'a un petit peu chambrée, alors ça la fait rire.
J'hésitais à lancer mon chapeau, puis je me suis dit, non, si je lance le chapeau, ils vont dire « Encore Ségolène !» Non.
Mais pourquoi ils diraient « Encore Ségolène » Parce que qu'est-ce qu'ils chantaient toute la foule en bas?
Oh, poil, Ségolène!
Ah, poil, Ségolène! Ah, poil, Ségolène! Les gens du Nord et leur goût sexuel étrange.
Économie à présent. Oui. Une étude révèle que la filière solaire pourrait créer 21 000 emplois en France.
Oui, si c'est la filière solaire, ce sera sans doute des emplois fictifs dans le Nord et la Bretagne.
Sur iTélé, ce week-end, ils sont passés une nouvelle forme de journalisme.
Oui, n'ayant pas de témoignage sur l'affaire de la famille disparue d'Orvault en Loire-Atlantique, ils ont trouvé une excellente solution, bravant toute logique déontologique.
La profileuse Lily Delahaye était notre invitée ce dimanche soir. Elle aurait rêvé de l'affaire avant même qu'elle ne soit relayée par les médias. Écoutez ses explications.
Dans mon rêve, en tout cas c'était mon rêve, hein. Un jeune assassinait sa famille en fait. Et c'était au bord de la mer, il y avait des vagues comme l'océan. Donc pour moi c'était en bord atlantique, enfin par là. Après j'ai fini par oublier. Et lorsque j'ai regardé cette affaire, j'ai eu un sentiment vraiment terrible.
Tu m'étonnes.
Donc on se fie au rêve des profileuses.
Oui, bah on attend avec impatience le verdict de Paco Rabanne sur l'affaire Doutreau et les conclusions d'Elisabeth Tessier sur le petit Grégory.
Mais Alex, c'était sur iTélé tout ça, maintenant c'est plus pareil, hein. C'est CNews et c'est plus sérieux.
C'est vrai que la technique de changer de nom pour gommer le passé, bah ça nous rappelle l'UMP qui devenait les Républicains, ça a bien changé.
Mais juste que c'était. Passons au sport.
Le sport, hein, vous aimez ça Claude Brasseur, le PSG a écrasé l'OM 5-1 et quelques minutes avant le match, Emmanuel Macron était l'invité de Jacques Vendroux sur France Bleu. Il est supporter de l'OM.
Mais comment voulez-vous que le PSG gagne?
Eh ben oui, et Macron est supporter de l'OM et il avait un petit pronostic.
Je pense que Marseille va gagner.
Baf.
Parce que je pense que l'équipe en vie, il y a une nouvelle dynamique.
D'ailleurs, on pense la même chose de vous.
C'est le bon moment. Donc moi, je parie sur un 2-1.
Il a parié sur un 2-1 et ça a fait 1-5. Au moins, la confirmation, c'est que si Emmanuel Macron est riche, c'est pas grâce au loto sportif.
Allez, des brefs pour terminer.
Oui, à Montpellier, une octogénaire décède après avoir dévalé une pente en fauteuil roulant.
Aïe, oui.
Oui, on le répétera jamais assez sur les routes, respectez les limitations de vitesse.
Allez, la dernière.
La dernière, Seine-et-Marne, son permis suspendu. Il se présente chez les gendarmes en voiture. En fait, les Français ne prenaient pas la route tout court.
Attendez, Alex, oui. Parce qu'il me semble que vous avez oublié l'info essentielle de ce journal de presque 17h17.
Qui est
une des personnes autour de cette table a fait son entrée au Panthéon, enfin au Panthéon médiatique, hein, c'est-à-dire à l'émission des 12 coups de midi, le célèbre jeu de TF1. Écoutez.
Ouh,
ça.
Nico, qui est belge?
Charline Van Wanker.
Extraordinaire sur France Inter. Mais vraiment, hein, sincèrement, c'est
incroyable. Incroyable. Bravo. Bravo, Charline. On est tous. Tous très émus. Allez, on s'accroche. On est ambitieux. Allez,
toi.
La prochaine fois, c'est Motus.
Moi qui adore les jeux, ça fait plaisir. On salue Jean-Luc Reichmann.
Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann.
On est avec Claude Brasseur, oui, jusqu'à 18h. On en profite. On va aborder ce premier sujet avec vous, Claude, parce qu'on refait le monde. Alors, on va refaire le monde avec vous. On va trouver des solutions.
Mérite.
Mais
ouais.
Bien sûr. Marine Le Pen et François Fillon mènent campagne sous la menace d'une mise en examen. Et pourtant, ils restent parmi les favoris. Un paquet de gens continuent à se dire prêts à voter pour eux. Quelle piètre image de son pays faut-il avoir pour envisager de le confier à des candidats malhonnêtes?
Je voudrais tout de suite, en premier lieu, en premier non-lieu, devrais-je dire, remercier tous ceux qui, dès le départ, y ont cru. C'est vrai que racheter une centrale nucléaire avec l'argent des Restos du Cœur pour en faire une crèche, c'était déjà pas gagné. Mais brûler le tout pour payer avec les assurances la campagne électorale d'un ancien nazi, alors là, on était très peu à y croire. Et puis pour terminer, j'aimerais remercier tous ceux sans lesquels nous ne serions pas ce que nous sommes. Alors, à vous électeurs, je vous remercie du fond des urnes. Quant aux autres, je vous remercie du fond du coffre. Et j'espère vous voir bientôt à Lausanne.
C'est un sketch d'Albert Dupontel qui s'appelle Les Pourris d'or.
J'adore Albert.
Alors voilà Claude Brasseur, on a nos deux principaux candidats, en tout cas deux favoris, qui font l'objet, qui sont sous les soupçons judiciaires. Et pourtant, il y a encore un paquet de gens qui a l'intention de voter pour eux. Est-ce que vous comprenez le choix d'électeurs français pour des gens qui peuvent être mis en examen d'une minute à l'autre et qui paraissent extrêmement louches.
Oui, moi je trouve que c'est le programme de Marine Le Pen qui devrait porter la burqa.
C'est une bonne proposition.
Bonne formule. C'est vrai. Intéressant. On verrait presque rien, ce serait pas plus mal.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à cacher, vous pensez, dans le programme?
Déjà sa tronche, oui.
pas l'attaque au physique.
Mais non, mais enfin.
C'est-à-dire qu'on a, il y a quand même dans les intentions de vote, ils sont quand même encore assez élevés. Hein, c'est à deux chiffres généralement. Il y a encore pas mal de gens qui sont prêts à voter pour François Fillon. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de, je sais pas, des Français qui vouloir ça pour son pays? Est-ce que c'est pas un peu troublant?
Non, ils ne veulent pas ça pour leur pays. C'est des autres qui ne veulent pas. C'est parce qu'on en a marre de tout ça. Enfin, ça me paraît être une vaste comédie. Enfin, c'est absolument incompréhensible. On ne comprend rien. Et je dois dire que la presse, en plus, s'en mêle. Parce que de quoi on me parle? Après, on ne me parle que de faits divers, des histoires de pognon, de trucs. On le sait, tout ça, que ce sont des tricheurs. Ça va, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais malheureusement, ils n'en profitent pas pour nous, ils en profitent pour eux. C'est un peu lamentable.
Donc on a le choix entre plusieurs tricheurs et il faut choisir peut-être le moins pire.
Exactement.
Il n'y en a pas un seul qui vous semble...
Non, il me faut marrer. Macron, il me fait penser aux sœurs Grimaldi. J'ai l'impression que c'était simplement une vedette de presse. Là, je suis sûr que Macron en couverture avec sa mère, enfin, je veux dire avec sa femme.
Lapsus.
Macron, il fait vendre Paris Match.
Ah, ça, c'est vrai.
Oui, non,
c'est-à-dire qu'il y a une concurrence possible entre le nombre de une de la famille de Monaco et Macron.
C'est pareil, quoi. C'est pour ça que c'est pas très intéressant.
Mais
quoi.
Vous allez aller voter quand même ou pas?
Ah oui, je vote toujours. Oui. J'ai pas de quelle couleur, mais
non, c'est pas.
Il y a grande chance pour que ce soit blanc actuellement.
Voilà.
Ah oui, moi voilà ça je vote. Oui, c'est notre seule façon de pouvoir exprimer quelque chose.
Bien sûr, oui, bien sûr. Et le vote blanc, il n'est pas comptabilisé, mais compté. C'est une subtilité des élections françaises, mais ça veut dire quelque chose. Claude Brasseur est avec nous et en face de vous, je sais que vous attendez la chronique de Mélanie Bauer.
Et ça fait plaisir.
Mais oui, mais vraiment.
C'est la première fois, je crois, que ça arrive en 2 ans.
Merci Claude Brasseur.
Je vous en prie.
C'est accompagné de violoncellistes en alternance, Anne Kos et Léa Duré, que vous, Claude Brasseur, vous lancez seul dans la lecture de l'indigent philosophe de Marivaux dès le 1er mars au Théâtre de l'Atelier à Paris. Nous disions ça tout à l'heure déjà. Et je vous comprends, car que trouver de mieux pour accompagner les pensées d'un clochard céleste que la finesse des doigts d'une femme maîtrisant de son archer ce gros instrument grave calé entre ses genoux.
Vous me l'enlevez de la bouche. Parce que c'est la première fois que je fais une lecture, donc j'ai un peu le trac. Je retrouve le trac que j'avais quand on débutait. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, parce que je me retrouve tout seul. Moi, j'aime bien la comédie, parce que c'est une question de générosité. Quand on pense que un des termes les plus importants de notre métier, c'est de donner. On donne la réplique et un partenaire vous donne. C'est formidable. Alors, j'ai voulu tricher.
Comme les politiques alors.
Mais moi, contrairement aux politiques, je le dis que je triche.
Je vote pour vous alors.
J'ai demandé à Christophe, j'ai dit, ce serait bien si j'avais un instrument de musique, parce que avec moi, comme ça, je peux tricher, je peux engager un dialogue, comme ça j'ai l'impression. Et vous me l'enlevez, oui, parce que vous me dites, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une pianiste? Non. Tu veux une violoniste? Oh non. Et je lui ai dit, j'aimerais bien une violoncelliste, parce que, comme vous venez de le dire, je trouve ça assez érotique, ce gros machin entre leurs jambes.
Allez-y.
C'était bien vu, bien vu.
Et je trouve que il y a quelque chose de très érotique dans une femme qui joue du violoncelle avec des grandes jupes, avec ou sans culotte.
Sans compter l'érotisme d'une femme qui fait sa chronique entièrement.
Une femme et des cordes, c'est donc ce que j'ai naturellement choisi de vous offrir aujourd'hui. Elle s'appelle Yasmine Hamdan, elle est née à Beyrouth, au Liban, fin des années 70, et sort le 17 mars ce prochain un disque solo, car en musique, on ne dit pas seul, on dit solo, c'est plus valorisant. Bref, elle sort Al Jamilat, qui veut dire en arabe « les magnifiques », mais « les magnifiques » au féminin. Les femmes magnifiques, car Yasmine a toujours eu ce côté punk des filles qui ne veulent pas être des poupées, des seconds rôles, des potiches, des femmes qui se refusent à être agressées par le désir des autres. Ses premiers pas de musicienne, elle les fait fin des années 90, en duo avec Soapkill, un des premiers groupes à explorer la musique électronique au Moyen-Orient, et grâce à ce nouveau son, elle devient une icône. ما تكون حزين لمين ميت ملايين بكرة بيخلق مليونين. Alors vous me direz, il n'y a rien de violent dans cette musique. Et pourtant, Yasmine chante en arabe et fait de la musique moderne. C'est déjà en soi une forme de rébellion, une émancipation qui se poursuit avec le producteur Mirveis, connu pour son groupe Taxi Girl, mais aussi pour avoir produit une icône occidentale, celle-là, Madonna. Avec lui, elle écrit l'album « Vous êtes fort, Charlie ». Arabologie, avec toujours ce souci de présenter la jeunesse de langue arabe comme une jeunesse moderne et ouverte sur le monde. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة ستة سبعة ثمانية ستة سبعة ثمانية ستة وستة اثناش منغش كون طول اثناش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ستة وستة اثناش. Femmes dont l'indépendance et la modernité dérangent autant le nouveau, le vieux monde. Yasmine Asdam Hamdan chante. Je suis émue, c'est parce que Claude Brasseur est en face de moi.
Il vous fait des œillères.
Ça me fait beaucoup.
Yasmine Hamdan chante. Quand je pleure trop. Quand je déteste trop. Quand je bois trop. Quand je m'inquiète trop. Je suis beaucoup trop. Petite femme secouée par de trop grandes émotions, elle ouvre son disque avec la guerre. Son chant est teinté de classique, sa musique occidentale, son message universel. Elle dit « Cette guerre a été jetée sur nous, des ennemis que vous et moi n'avons pas cherchés. Il faut rebondir dans une lutte amère que vous et moi, nous n'avons pas cherchée. Leur gouvernement, dirigeant, ministre que vous et moi n'avons pas cherché. La honte et la douleur, ces cercles de hors-la-loi que nous n'avons pas cherchés. Le printemps arabe est là. » Yasmine Hamdan.
Vous avez pas le disque?
Chante douce
Oui, l'album Al Jamilat sort le 17 mars. Elle sera sur Inter les 10 et 13 mars prochains.
Oh, merci Mélanie Bauer. Dites-moi Mélanie, vous organisez un événement pour les gens qui habitent la région parisienne ou qui sont de passage?
Oui, alors je suis très contente de vous dire qu'à la Java le 17 mars prochain, il y aura du hip-hop et du super hip-hop avec JP Manova, Silk and the 45 Experience et même une fanfare, l'obras du Pnouf. Ah. Ce sera formidable. Venez, venez.
Et alors, il y a un site internet pour ça, Java quelque chose?
Ça s'appelle les soirées Tuba Essai à la Java. Voilà. Il faut les chercher, vous trouvez ça sur le net assez facilement.
Merci Mélanie Bauer sur France Inter. En attendant Hippolyte Girardot, il y a Claude Brasseur qui est avec nous jusqu'à 18h. Claude Brasseur que vous pouvez voir sur les planches dans l'Indigent philosophe, lecture d'un texte inédit de Marivaux avec, on a dit, les violoncellistes, n'est-ce pas? On va les nommer.
N'y revenons pas, n'y revenons pas.
Et Léa Duret, mais si, c'était le début, le point de départ de votre chronique. Claude Brasseur, je vous présente Guillaume Meurice.
Bonjour. Enchanté.
À vos côtés. Écoutez l'artiste.
Alors moi, je voudrais m'adresser aux professeurs aujourd'hui, c'est-à-dire sur France Inter, à peu près un auditeur sur un, en fait, en moyenne. Alors écoutez bien les profs, on arrête de tailler son collier de barbe et de repasser son pull de la Camif et on se concentre, car ce matin avait lieu un grand colloque organisé par l'Académie des sciences morales et politiques. Rien que dans le nom de l'Académie, on sent qu'il y a un fort potentiel de blague.
Ah oui.
Attendez, c'est pas fini, c'est une académie qui est présidée par Michel Pébrot, ancien dirigeant de la BNP. Ah. Et bim, on double le potentiel de blague. Et c'est une académie qui se réunissait pour débattre de la place de l'économie dans les programmes scolaires. Fin de la blague.
Je suis passionné.
Voilà. Et attendez, ce n'est que le début. Claude, accrochez-vous, on y va. J'y suis allé pour interroger les participants. On commence avec un directeur de lycée technique privé. Qu'est-ce qu'il faisait là?
Eh bien, tout simplement parce que j'y étais invité. J'y ai été invité par l'association Jeunesse Entreprendre.
D'accord.
Monsieur Yvon Gattaz.
Ah, attendez, ça me dit quelque chose, ça. Gattaz, c'était pas un fabricant de pins il y a quelques temps? Ah ouais, les fameux pins, 1 million d'emplois. Hein, on connaît la suite, personne n'a voulu des pins. Pierre Gattaz s'est assis dessus, mais c'est les chômeurs qui ont eu mal au cul. Eh bien, Yvon Gattaz, c'est l'ancien président du MEDEF, qui s'appelait à l'époque le CNPF. Et Pierre, c'est son fiston, figurez-vous. Ah, la belle méritocratie à la française, comme on l'aime. Alors, ce directeur de lycée, qu'est-ce qu'il veut pour les programmes scolaires?
Eh bien, il faut déconnecter l'enseignement de l'économie dans l'enseignement général de l'idéologie, tout simplement.
Mais de quelle idéologie vous parlez alors?
Oh non, je parle de rien du tout. Je
si vous venez de dire qu'il y a une idéologie.
C'est ce qui a été dit tout à l'heure, il faut que...
Alors laquelle?
Il faut que il y a pas d'idée. Il faut que l'enseignement de l'économie soit déconnecté des concepts idéologiques, c'est tout.
Ouais, c'est tout, mais c'est un peu court, presque jeune homme. Hein. On a l'impression qu'il veut pas dire les choses. C'est la nouvelle droite, hein, la droite recomplexée. Alors, comme je voulais le décoincer un peu, je lui ai rappelé que dans leur rapport rendu donc fin janvier, l'Académie parle d'une influence marxiste dans les programmes scolaires.
Ouh, les...
Ah, attention, qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur?
Je sais pas, je n'y étais pas, donc je peux pas répondre.
Vous n'avez pas lu le rapport?
Je ne peux pas répondre à cette question-là, puisque c'est la première fois que je viens ici. Donc,
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Oh, mais ça, c'est pas la question.
Allez, c'est la mienne.
Bonne journée.
Voilà, bonne journée, monsieur le directeur.
C'est gentil d'avoir répondu.
Il est quand même sympa. Hein. Bonne journée, monsieur le directeur, qui fuit, hein, comme Mélanie Bauer, devant une chanson française populaire. Allons voir un autre participant au colloque. Pourquoi cette influence marxiste dans les programmes de vos enfants?
Eh bien, c'est parce qu'ils sont rédigés par des... Enfin, si vous voulez, le corps professoral, au début de cet enseignement, était constitué de gens qui sont hostiles à l'économie de marché, tout simplement, qui rêvent d'une révolution, enfin d'un changement très radical. Et du coup...
C'est des révolutionnaires qui rédigent les programmes?
Il ne vous a pas échappé que le pouvoir appartient dans l'éducation nationale depuis 100 ans à la gauche.
Eh oui, j'ai vérifié, c'est vrai. Depuis 100 ans, le pouvoir de l'éducation nationale appartient à la gauche. Luc Châtel, Xavier Darcos, Gilles de Robien, René Monory, hein, pour n'en citer que quelques-uns, des gauchistes patentés au service de la propagande crypto-léniniste, les brigades rouges du tableau noir, bien évidemment, avec le résultat qu'on connaît, hein, d'ailleurs, une France communiste depuis des dizaines et des dizaines d'années. Heureusement que l'Académie des sciences morales et politiques est là. D'ailleurs, pour ce participant, qu'est-ce que le marxisme?
Si vous voulez, le marxisme, c'est une théorie, mais c'est aussi une vision du monde qui va au-delà de la théorie, enfin, qui est une hostilité, en tout cas. Je ne sais pas s'ils sont marxistes. Ils sont peut-être pas assez cultivés pour savoir exactement ce que c'est que le marxisme, en plus.
Ceux qui rédigent les programmes?
Oui.
Eh oui, ceux qui rédigent les programmes sont des cons, hein, on est bien d'accord. Moi, je donnerai les manuels d'histoire directement à Robert Forisson, les programmes de sport à Alex Vizorek, ceux d'économie à Pierre Gattaz, enfin, lui ou sa famille, hein, parce qu'on a compris, il y avait un talent héréditaire. Alors, à propos de la famille Gattaz, qu'est-ce qu'il faisait là, cet autre monsieur?
Parce que j'étais invité, j'ai aucun...
Qui vous a invité?
Yvon Gattaz, c'est mon cousin, alors ça facilite les invitations.
Ah, vous êtes de la famille Gattaz?
Oui.
Eh ben oui, pourquoi s'emmerder? Dans la famille Gattaz, je demande le cousin. Putain, c'est plus une académie, c'est un jeu de cette famille, le truc. Il manque plus que le chien pour le dossier économie et croquettes. On aurait la totale. Alors écoutons pour conclure les réflexions du cousin Gattaz.
Il n'y a pas un jeune que je connaisse qui connaît quelque chose à l'entreprise ou à l'économie, alors il y a quelque chose quelque part qui merde un peu, quoi.
Il faudrait enseigner l'entreprise à l'école.
Je pense qu'on pourrait facilement enseigner l'entreprise comme la vie. Il y a des gens qui y travaillent, il y a un produit, c'est comme une famille. Et je crois qu'on pourrait l'enseigner comme ça, mais aujourd'hui...
C'est beau ça, enseigner l'entreprise comme la vie.
C'est beau. Hein.
Ah, c'est très beau, c'est très très beau. Oh. Hein. Ça me donne envie de me crever les yeux avec un portrait d'Alain Madelin. Et ça m'inspire une réflexion. Si on arrêtait de mettre de l'argent public dans des académies à la con, peut-être on pourrait enfin parler d'économie et surtout on pourrait en faire.
Merci Guillaume Meurice. Un petit exemple de... Oui ?
Non, je le dis, c'est très bien tout ce qu'il vient de faire. Il vient de faire l'apologie de la langue de bois.
Oui, c'est ça.
Exactement, c'est ça.
Il y en a pas un qui... Ah ben, j'étais pas là, alors. Moi, je me dis, ah ben non, je connais pas.
Et face à ça, Guillaume Meurice applique quand même la philosophie de la joie. C'est le sous-titre, finalement, de l'indigent philosophe.
Oui, on
le texte de Marivaux.
Ça manque un peu en ce moment, je trouve.
C'est vrai.
Sauf au cours de votre émission, qui est très agréable.
Ah, merci Claude Brasseur.
Il reste.
Et donc, dans le texte de Marivaux que vous jouez au Théâtre de l'Atelier, et qui est donc joyeux, qui voit le verre à moitié plein, comme on dit. On va aborder avec vous cette autre...
C'est pas le théâtre qui sera à moitié plein. Hein.
Non, il faut qu'il soit plein comme un œuf, c'est clair. On va aborder cet autre sujet avec vous, Claude Brasseur. Cette énorme boulette de Warren Beatty aux Oscars, ils ont le sens du show, les Américains, quand même. Le type a une filmographie monumentale, c'est un acteur mythique, mais c'est peut-être dans ce rôle de la boulette qu'il risque de rester le plus célèbre chez la jeune génération.
Tout le monde peut se tromper sur la terre. On n'est pas le bon Dieu. Il faut avoir bon caractère. Sans ça, on est malheureux.
Tout le monde peut se tromper, Bourvil. Donc cette nuit aux Oscars, Warren Beatty a annoncé le mauvais film. Il avait annoncé La La Land comme meilleur film et c'était Moonlight. Alors ça, c'est dingue, mais ça risque de rester comme l'un des grands rôles de sa carrière. Est-ce que ça fait l'image fait le tour du monde? Ça paraît un peu vertigineux. Donc quand on est un acteur mythique comme ça, est-ce que finalement remettre un prix, on oublie parfois que c'est une grosse responsabilité?
Ça dépend si on boit avant ou pas.
Alors il faut l'erreur, c'est pas du tout de sa faute.
Oui, c'est
hein.
Ça.
Je vous dis, qui assume la responsabilité et a présenté ses excuses, accrochez-vous, c'est le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit qui dit avoir remis la mauvaise enveloppe. Donc on se demandait à quoi ça servait un cabinet d'audit. En plus de coûter très cher, ça vous fait faire des conneries. Donc, hein. On vous a vu lors de la cérémonie des Césars, Claude Brasseur.
Oui, allez-y, oui. Finissez votre phrase.
Ah, ne
oui.
pas remettre un César d'honneur.
Ne pas remettre un César d'honneur.
Un César d'honneur. Voilà.
Non.
Ah bah oui, ah oui,
alors, si
Jean-Paul Belmondo.
Ne parlez pas de César.
Ah non,
non,
quand il s'agit de Jean-Paul. Parce qu'au contraire, ça a été l'organisation des Césars a décidé de lui rendre un hommage, mais certainement pas de lui remettre un César.
Expliquez pourquoi justement.
Oh, pour une raison très simple, Jean-Paul avant tout aime son métier bien sûr, ses amis et sa famille, et il a été blessé que l'organisation des Césars ne choisisse pas son papa, Paul Belmondo, qui fut un grand sculpteur, de ne pas avoir invité son père à sculpter la statuette récompense et de s'adresser à un des élèves de son père, autre sculpteur de grand talent, bien sûr, que fut César.
Enfin, qui compresse, quoi.
Hein, on aurait appelé ça les Belmondo.
Oui, c'est vrai.
Le Belmondo d'honneur.
Est-ce qu'on peut imaginer monter une académie dissidente, alors? Où les gens pourraient remporter des Belmondo.
Pourquoi pas?
Il est content, Jean-Paul.
Ça peut être une idée.
Ou des brasseurs. Là, il était content. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
On l'a vu, oui.
Il était quand même... très, très, très ému.
Mm-hmm. Mais on a l'impression que tout le monde l'aime, cet homme. Tous les gens qui ont travaillé avec lui, tous les gens qui ont eu autour
exact.
De lui.
Il y a de quoi.
Oui.
Il y a de quoi, parce que, effectivement, nous, enfin, j'ai dit nous, notre petit groupe qui était élève du conservatoire mm-hmm. en même temps que lui, mm-hmm. Marielle Rochefort, Françoise Fabien, bref. On l'a connu.
Gamin.
Gamin, quoi. Et c'est vrai qu'il n'a pas changé. il n'a absolument pas changé. Et moi, je me souviens d'une petite anecdote, si j'ai le temps d'en raconter.
Bien sûr, allez-y, Claude.
J'étais dans un cours d'art dramatique chez Raymond Girard, pour ne pas le nommer, qui fut également le professeur de Jean-Paul. Et ce professeur nous formait pour passer le concours d'entrée au conservatoire. Je suis élève de ce cours, blablabla, et le professeur me sélectionne parmi ses élèves pour me dire, ça va, t'es prêt pour passer le concours d'entrée du conservatoire. Et un jour, on m'annonce que je suis reçu à ce... et que j'ai le droit de participer à ce concours d'entrée. Et le professeur, au cours, avait fait un petit vin d'honneur pour féliciter les deux, trois élèves de son cours qui étaient reçus au conservatoire. Et là, je me souviendrai toute ma vie, tous les copains viennent me faire des bises en disant « Ah bien, c'est bien, t'es content, puis alors tu vas voir. Tu vas faire la connaissance d'un mec absolument incroyable. » Et c'est un mec qui s'appelle Marbon, Mebon, enfin, il n'y en a pas un qui me dit le bon. Mais il y en a un qui finit par dire Belmondo. Oui, Belmondo, voilà. Un mec qui s'appelle Belmondo, tu vas voir, c'est un mec. Et tout le monde me parle de Jean-Paul, mais je veux dire par là que avant ces grands films à grand succès, c'était déjà une star. C'est un type qui dégage et qui a toujours dégagé un charisme extraordinaire. Et la première fois que je suis allé au conservatoire en tant qu'élève, il y avait un attroupement devant l'entrée parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer avant 8h30 ou 9h du matin. Il devait être 9h-5. Il y avait un attroupement devant la porte et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe alors? Je me suis fait mon chemin. Il y avait Jean-Paul qui était là, qui était en train de faire un numéro quelconque. Je sais pas. Il était en train de déconner, mais tout le monde applaudissait. Enfin, je veux dire que le charisme de Jean-Paul faisait de lui déjà une star. C'est pas le nombre d'entrées.
D'où le nombre de gens autour de lui.
Oui, oui. Et c'est
samedi,
vrai que.
Oui, vendredi soir.
On l'aimait bien. On l'aimait beaucoup.
Et on retient que vous l'avez rencontré donc, autour d'un coup de pif, donc. Hein. Claude Brasseur, à côté de vous, il y a Hippolyte Girardot.
Un charisme.
Ah, oui, un autre charisme.
Oui, oui.
Vous le connaissez un petit peu?
Mais oui, oui, c'est, nous avons été partenaires.
Ah, oh là, voilà.
Oui, autour de la même gonzesse.
Ah, écoutons-le.
Ça dans rapproche, la vie. Ça rapproche.
Pas dans la vie.
Non, bien sûr que non. Oui, non, mais parfois, avant de ma chronique, je fais un cauchemar. En général, c'est Guillaume Meurice qui me poursuit avec son micro, qui me demande si je fais des piges pour des pubs.
Oh, j'ai eu peur.
Ce qu'on appelle des ménages, ou si c'est vrai que je forme un comité de soutien à Jean-François Placé, enfin bref, ce type est un cauchemar. Hein.
Jean-Vincent, vous voulez dire.
Voilà.
Elle est pire que moi.
En fait, oui, bon. Là, donc la nuit dernière, je me réveille en pleine nuit, comme ça, il n'est pas là, bon, j'ai eu peur, et je dis, j'ai qu'à regarder les Oscars. Voilà. Et donc, c'est à peu près le moment où Warren Beatty, Faye Dunaway monte sur scène pour remettre le prix du meilleur film. Bon, déjà, quand tu te réveilles comme ça, tu te demandes si tu dors pas encore, parce que quand tu mets les deux ensemble, tu te dis, moi, j'ai vu le film, c'était quoi, c'était quand, c'est, et paf, ça te revient. Tu dis, mais oui, c'est Bonnie and Clyde, le couple de bandits le plus sexy du cinéma. Bah, alors, évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt le couple le plus botoxé d'Hollywood. C'est un petit peu différent. Mais on s'en fout, parce que ils sont Bonnie and Clyde forever, ils sont immortels. Alors, après un petit discours sur la diversité du cinéma, c'est leur truc en ce moment à cause de Trump, comme nous, à un moment donné, on avait les intermittents à l'époque Bakri. Alors, Warren, il ouvre l'enveloppe, il la regarde, il faisait la tête genre, je crois pas, il rigole, ça dure. Tu dis, Warren, c'est bon, sors tes lunettes, fais pas ta coquette, fais pas ton actrice, c'est bon, t'as presque 80 balais, tu peux sortir tes lunettes. Mais en fait, non, c'est pas ça le problème, c'est pire. Et donc, très courageux, Warren, il passe l'enveloppe à Faye Dunaway. Pareil, elle regarde, alors il dit, genre, Bonnie, jette un œil, je le crois pas, ça, ça dure longtemps. T'as envie de leur dire, les gars, hey, vous imaginez le palpitant des nominés dans la salle, là, si vous pouviez vous décider, ça serait mieux, quoi, parce qu'ils vont claquer. Et à ce moment-là, les deux sur scène, on croirait juste qu'ils cherchent l'adresse de leur médecin sur Google Maps, tu vois. Et bon, d'un seul coup, elle se lance, je sais pas comment, elle fait La La Land! Comme ça! Faye Dunaway. Ah, applaudissements, l'équipe de La La Land monte sur scène, commence à faire les remerciements, et puis tu vois que ça discute derrière. Il y a même un type avec une oreillette qui arrive, qui monte sur scène. Alors là, tu sais que c'est grave, il y a un mec avec une oreillette qui est sur scène. En général, ils sont derrière la scène, tu vois. Et Jordan Horowitz, le producteur de La La Land, il arrache la bonne enveloppe, à la fois gentiment et un peu énervé des mains de Beatty, qu'il avait récupéré la bonne enveloppe, donc, et il proclame avec élégance que le vrai gagnant est Moonlight. La boulette. La grande boulette. Grande confusion dans le tout Hollywood, surtout que bon, La La Land, ça coûte beaucoup de pognon, et Moonlight, c'est un tout petit film. Le paradoxe, c'est juste, c'est cinématographique, c'est que, en fait, La La Land est un film désespéré et amer, tandis que Moonlight est optimiste et croit en l'amour. C'est intéressant. C'est une autre histoire. Bref. Non, celui qui a dû se marrer, pour moi, c'est Trump. Parce que Robert De Niro va avoir du mal à lui reprocher les fake news, la post-vérité, les mensonges, tu vois. Il pourra lui dire, hey, Bob, tu fais déjà le ménage chez toi et puis on en reparle après. Mais il n'y a pas que les comédiens ou les politiciens, non. Il y a les cosmonautes aussi qui nous racontent des bobards. Thomas Pesquet, là, le fameux, il a essayé de nous faire prendre la ville de Rome pour Lyon. Alors moi, je me demande qui c'est, hein, ce gars-là, ce Pesquet. Parce que, est-ce que c'est vraiment un astronaute? Il passe son temps à tweeter, à nous poster des photos sur Instagram pour nous dire, ouais, c'est beau, ah, c'est super, ah, que c'est beau la Terre. Ah, franchement, le niveau du mec, excuse-moi. T'as envie de lui dire, ok, mec, c'est cool pour toi. Il a une chronique sur France Info, faut le savoir c'est quand vrai. Même. Il a une page Facebook avec 1 million de followers. Heureusement, il va revenir un peu trop tard pour l'élection présidentielle. Il arrive fin mai parce qu'à mon avis, il avait toutes ses chances. Parce que son programme, à lui, c'était hyper simple. C'était pas du tout ni droite ni gauche, droite et gauche ou droite ou gauche. Non, lui, c'est rond, un rond qui tourne comme la Terre. C'est-à-dire la droite devient la gauche au fur et à mesure de la journée. La gauche, hop, réapparaît à droite d'un seul coup. Elle repart vers la gauche qui est poussée par la droite qui la rattrape. C'est le positionnement perpétuel parce qu'il a inventé un truc. Moi, je crois qu'il n'est pas là-haut. Je crois qu'il est dans un studio à la Plaine Saint-Denis et qu'on le filme. Hein.
Mais, la seule vraie chose. J'ai un autographe de lui.
Tu vois, la seule vraie chose concrète, mes amis, c'est Abraham.cheval.
Ah oui.
Actuellement, au musée de Tokyo, cet artiste s'est fait enfermé à l'intérieur d'une pierre d'une tonne et demie. On peut aller lui parler, c'est très marrant, et c'est très poétique de discuter avec un gros rocher à l'intérieur duquel il y a quelqu'un. Alors évidemment, ça démange de le bombarder de fake news, de lui dire, tu sais, les Russes ont envahi Paris, de lui dire, La La Land a gagné l'Oscar, de lui dire, tu sais, Mélenchon a disparu, il ne reste que l'hologramme, de lui dire que Paris est devenue une ville entièrement naturiste, mais oui, et que Marine Le Pen est au pouvoir. Oups, et puis après lui dire, non, excuse-moi, on s'est trompé d'enveloppe.
Merci, Pauline Girardot. Bravo.
Mais allez voir cette performance. Oui. Ça s'arrête mercredi, mais allez voir ça.
D'accord. Merci, Hippolyte. Claude Brasseur, nous avons un petit défi à vous lancer, collectif.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, un rôle qu'il n'a sans doute jamais joué. Et pour vous, Claude Brasseur, on a pensé à Jean-Luc Mélenchon. Parce que peut-être vous n'avez jamais joué le Jean-Luc Mélenchon dans votre vie. Et à votre regard, je vois que non. Car il a dîné avec notre ami Benoît Hamon pour essayer de se réconcilier. Ils n'y sont pas arrivés. Que s'est-il passé pendant ce dîner? Guillaume Meurice et Benoît Hamon, vous êtes Jean-Luc Mélenchon, Charline Vanhoenacker fait le service.
Alors Jean-Luc, on n'est pas bien là dans ce resto chilien?
Ouais, j'aurais préféré un resto cubain.
Peut-être que ton hologramme y est.
Mon hologramme, il fait plus de voix que ton nouvel ami.
Ah, Yannick Jadot.
Bonjour messieurs, vous prendrez un apéritif?
Pour moi, du gros rouge qui tâche.
Moi, je vais prendre un rosé très léger.
Bah voyons, je te reconnais bien le côté édulcoré du Parti Socialiste.
Alors, je peux prendre les commandes?
Non! C'est moi qui commande!
Non, c'est moi. Non.
Je voulais dire, avez-vous choisi ce que vous désirez manger?
C'est-à-dire que je trouve pas le menu...
Quoi?
Quinoa.
Oui,
Jean-Luc.
C'est normal, on comprend jamais rien de ce qu'il dit.
Jean-Luc, te sens pas obligé pour le quinoa, il n'y a pas de photographe là.
Et donc vous êtes là pour tenter un rapprochement?
Oui, ça se voit pas.
Ouais, on n'a jamais été aussi proches là.
Alors je peux vous proposer un menu couple?
Ah, avec lui?
Ouais, de toute façon, quel que soit le menu, il fera son bougon. Hein.
Exact. Je suis le candidat de la France Insoumise.
Ah, que c'est drôle! On dirait les frères ennemis.
Bonjour, messieurs, c'est 3 euros.
Et c'est qui celui-là?
Un Pakistanais, il veut nous rendre des roses. Ça te dit encore quelque chose?
Et toi, tu lui achètes tout son stock ou tu comptes appliquer ton dégagisme?
Moi, pas dégager, moi, vendre le rose de l'amour.
Écoute, t'es bien gentil, mais c'est pas non plus la Saint-Valentin.
Bon, messieurs, alors pour votre dîner, qu'est-ce que je dis au cuistot?
Qu'on n'est pas comme lui, Fillon et Le Pen.
Ouais, nous au moins, on n'a pas de casserole.
Ah, voilà, mais enfin, un rapprochement en vue, ce que je vois.
Nous n'avons jamais été en compétition.
Bah oui, ça aurait aucun sens, puisque je te devance dans tous les sondages.
Eh oui, ben moi, je fais plus de fans que toi sur Facebook.
Ouais, mais moi, j'ai ouvert mon compte après toi.
Non, parce que je te bats aussi sur YouTube.
Et moi, quoi faire avec mes roses?
Voilà, monsieur, je crains qu'il faille les jeter.
Et moi, j'aurais préféré rester au Cuba.
Le sketch sans interruption.
Claude Brasseur dans le rôle de Jean-Luc Mélenchon avec toute sa gouaille. Ouais. Merci Claude Brasseur.
Merci beaucoup.
J'ai été déçu quand même.
Pour cette rentrée.
C'est vrai. Claude Brasseur, je rappelle donc qu'on peut vous voir sur les planches. C'est à partir du 1er mars et jusqu'au 1er avril dans L'Indigent Philosophe, un texte inédit de Marivaux. C'est au Théâtre de l'Atelier. On peut voir du mercredi au vendredi à 19h, en matinée le samedi à 16h, le dimanche à 18h, le sous-titre La philosophie de la joie, car c'est joyeux. Dans une mise en scène de Christophe Lidon, avec les violoncellistes en alternance Anne Cause et Léa Duret, et sur une musique originale de Cyril Giroux. Marivaux, donc, un texte qui résonne avec... Avec aujourd'hui, n'est-ce pas? Je rappelle la phrase que je vous disais tout à
avec
l'heure.
Avec ce dont on a besoin aujourd'hui.
Eh ouais. Il fait sombre au pays des lumières. C'est la phrase de cette phrase de ce texte de Marivaux qu'on voit partout aujourd'hui. Infiniment merci Claude Brasseur. C'était un bonheur de vous avoir avec nous.
C'est moi qui vous remercie. C'était un bonheur d'être avec vous.
Merci.
Promettez de revenir?
Avec grand plaisir. La porte est ouverte. Et voici le mot de la fin à quatre courageuses héroïnes qui sont montées sur les barricades à Meaux aujourd'hui.
Jusqu'au bout avec Fillon. Jusqu'au bout avec Fillon. Jusqu'au bout avec Fillon.